Pas de surprise dans les réactions des partis d'opposition. Tout d'abord pour le Parti québécois, Nicolas Marceau, député de Rousseau et critique en matière de finances.
On distribue les bonbons au point de creuser des déficits pour cette année et les deux suivantes, et on replonge dans l'austérité le lendemain des élections. Pourquoi je parle de budget électoraliste? Quels critères utiliser pour parler d'un budget électoraliste? Bien sûr, il y a l'augmentation des dépenses de cette année. Bien sûr, il y a la baisse des impôts. Mais la question à laquelle on doit répondre pour savoir si le budget est électoraliste, c'est de se demander si le budget qui a été déposé aujourd'hui pourrait être déposé tel quel l'année prochaine ou dans deux ans. Et la réponse, c'est clairement non. Ce budget ne pourrait pas être redéposé l'an prochain ou l'année prochaine parce qu'il cause des dommages dès cette année. Tout d'abord, dès cette année, il y a des déficits, puis il y en a pour les deux années suivantes. Déficit important. Qu'est-ce que ça veut dire un déficit? Ça veut dire des revenus qui sont plus petits que les dépenses. Deuxième élément, dans le budget, on puise, on utilise la supposée réserve pour éponger les déficits et les montants qui sont en cause sont importants. On parle de 1,6 milliard en 18-19, 940 millions en 19-20, 480 millions en 20-21. Mais il faut bien comprendre que la réserve, ce n'est pas un compte de banque dans lequel on a stocké de l'épargne et puis duquel on retire de l'argent quand ça va mal. Ce qu'on appelle la réserve ici, c'est une simple écriture comptable. L'argent des surplus précédents a été versé sur la dette. Il n'y a pas de compte de banque. Tout ce qu'il y a, c'est une écriture comptable. Et le fait d'avoir de l'argent dans la réserve, ça empêche le déclenchement des mécanismes de la loi sur l'équilibre budgétaire. Point à la ligne. Ça veut dire que malgré les déficits de cette année, de l'année prochaine et de l'année suivante, le gouvernement n'aura pas à restaurer la situation, n'aura pas à redresser la situation parce qu'il a des surplus antérieurs. C'est tout. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année et pour les deux prochaines années, il y a des déficits.
Pour la coalition Avenir Québec, le chef François Legault.
Ce que fait le gouvernement libéral dans le budget qui est déposé aujourd'hui, c'est d'abord un rattrapage dans les services. Il remet l'argent qui avait été coupé dans les services. C'est bien. Il y a évidemment des désavantages avec ce qu'on peut appeler en anglais ce « stop and go », de couper et ensuite ajouter. Je pense que ce n'est pas bon pour la gestion du réseau, mais au moins l'argent est remis. Par contre, là où il n'y a presque rien, c'est pour le portefeuille des familles, pour le portefeuille des Québécois. Il y a encore de l'argent dans la réserve de stabilisation, il y a des surplus, et, je le répète, on a donné 1 milliard de dollars de trop par année aux médecins spécialistes. Donc, on se retrouve actuellement, quand on fait une comparaison Québec-Ontario, que le Québec, toute proportion gardée, quand on compare aux autres travailleurs, le Québec va donner pour chacune des prochaines années 1 milliard de trop aux médecins spécialistes. Donc, le gouvernement libéral aurait pu faire beaucoup plus pour le portefeuille des familles et le portefeuille des Québécois.
Et pour Québec solidaire, la co-porte-parole, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé.
La vision de M. Couillard, de son équipe, de M. Letao, depuis 4 ans, la vision économique nous fait voir que le Québec n'a pas avancé. Le Québec n'a pas avancé au niveau des services publics, au niveau de la qualité de vie des gens. C'est sûr que c'est facile quand, pendant 4 ans, tu ramasses un butin électoral, 6 mois avant l'élection, de disperser ça au gré de ce que tu as tout enlevé. Et la preuve est claire, vous n'avez qu'à regarder à partir de 2019-2020, du budget 2019-2020, et on voit réapparaître des budgets diminués. Alors, vous savez, on n'est pas très impressionné de ce petit pas de danse préélectoral du gouvernement libéral. Ça se résume pas trop compliqué. On recule de 4 pas, on avance de 2, puis on fait à croire au monde qu'on a avancé. On n'est pas dupe, ni à Québec solidaire, ni dans la population du Québec, parce que ce budget-là vient encore une fois consacrer le principe du yo-yo. Le principe du yo-yo.
Pas de commentaire spécifique sur les 348 millions destinés à la mise en œuvre de la future politique bioalimentaire, si ce n'est pour dire que l'argent vient de ce que l'on appelle la réserve. Les commentaires viendront au dépôt de la politique. D'autre part, on a vu que dans les documents budgétaires, on reconnaît le bioalimentaire comme secteur stratégique pour l'économie. On y dit également que la transformation alimentaire, comme secteur industriel, aura l'appui conjoint du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Économie, ce que confirme la ministre Dominique Anglade. Madame Anglade, bonjour.
Bonjour.
Madame Anglade, investissement absolument nécessaire dans le secteur industriel de façon globale. Il faut se tenir à jour, il faut investir dans l'innovation, les équipements, etc. Dans le secteur bioalimentaire ou agroalimentaire, on parle dans les notes budgétaires qu'il y aurait collaboration particulière entre votre ministère de l'Économie et le MAPAC.
Vous savez qu'on a une obsession du manufacturier innovant. Et quand on regarde les industries manufacturières, l'agroalimentaire, c'est le plus grand secteur de manufacturier au Québec. Et ça, ça fait partie des discussions que nous avons eues dans la dernière année, dans les deux dernières années, où on s'est dit à quel point il fallait qu'on collabore davantage pour accélérer cette transformation-là dans un secteur qui, traditionnellement, est considéré MAPAC, mais en fait, c'est vraiment du manufacturier. Et je pense que ce qu'on voulait faire, c'est envoyer un signal auprès du secteur pour dire il va falloir qu'on collabore, il va falloir que ce secteur-là se modernise et il faut qu'on réponde présent également. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez de cette manière-là. C'est le principe qui sous-tend ce que vous avez vu dans le budget.
Il y a des gens inquiets dans le secteur de la transformation qui disaient ces derniers mois, ces dernières années, on ne trouve pas vraiment notre place dans l'économie du Québec. C'est pas vrai.
C'est pas vrai et je l'ai mis au défi là-dessus de venir me voir avec des projets qui sont novateurs parce qu'il y a des gens dans le secteur agroalimentaire qui sont venus nous voir, qui ont des projets concrets. L'année dernière, ce que l'on a constaté, c'est que dans le manufacturier, pour la première fois depuis 10 ans, on a c'est 43 % de la création des emplois qui est issue de ce secteur-là. Donc, il faut que les gens viennent nous voir avec des projets porteurs, mais on est très, très ouverts.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et pour ce qui est de l'UPA, j'ai demandé à son directeur général et économiste de commenter le budget Letao. Charles-Félix Ross, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Ross, le budget du ministre Letao, le budget 2018, des mesures intéressantes pour le monde agricole. Vous attendiez plus, vous avez satisfaction. Comment le voyez-vous, ce budget-là?
C'est un budget que je résumerais avec une phrase, mi-figue, mi-raisin. D'un côté, il y a des mesures qui sont très structurantes pour le secteur agricole et agroalimentaire et qui sont même emballantes. Et de l'autre côté, il y a des déceptions.
Si on commence par les choses emballantes.
Bien, les choses emballantes, l'appui, l'aide annoncée à la future politique bioalimentaire, c'est un appui majeur. C'est près de 350 millions de dollars qui vont être investis en agriculture, en agroalimentaire dans les 5 prochaines années, en appui à une diversité de mesures, de programmes qui vont vraiment aider là, à structurer, à supporter ou soutenir le développement là, de notre secteur d'activité.
Et ce montant de presque 350 millions, c'est de l'argent neuf, en tout cas à l'évidence même.
Il y a 38 millions qui sont des crédits déjà prévus au ministère de l'Agriculture, mais il y a un petit peu plus de 300 millions qui sont effectivement de l'argent neuf. En fait, lorsqu'on regarde le détail, on parle de soutenir davantage l'offre alimentaire du Québec, donc tant au niveau local qu'à l'exportation. Il y a des aides pour le CART TV, des aides pour le groupe Agro-Export. Il y a des aides pour la promotion des aliments du Québec. Donc ça, c'est des mesures qui sont structurantes, qui sont intéressantes. On prolonge le programme de chaulage et de drainage, 4 millions par année. C'était une demande des régions. Donc ça, c'est... Quand je vous parle de mesures structurantes, c'est des exemples concrets.
Soutien à la relève, formation et tout ça, des mesures intéressantes aussi.
On n'a pas les détails, mais effectivement, on veut investir plus à travers les ITA. On veut investir aussi dans les infrastructures, dans les immobilisations là, de nos institutions d'enseignement. Donc, c'est le côté emballant. C'est des belles mesures et ça va donner une étincelle là, au développement là, de notre secteur pour les prochaines années.
Pour nombre d'agriculteurs, peut-être la mesure qu'on attendait le plus, c'était la confirmation de budgets supplémentaires pour stimuler l'investissement pour le bien-être animal, l'énergie et tout ça, autant dans l'agricole que dans la transformation alimentaire d'ailleurs.
Et dans le 350 millions, il y a un 20 millions par année qui va être investi du côté agricole. Donc, c'est un 100 millions qui s'ajoute aux 95 millions de dollars qui avaient été annoncés l'an dernier. C'était une demande de l'UPA depuis plusieurs années, un soutien à l'investissement. Et on le demandait également pour le secteur de la transformation alimentaire. Eux, sur une période de 5 ans, c'est un 75 millions de dollars qui va être consacré là, à l'appui à l'investissement dans la transformation alimentaire au Québec.
Le dossier des taxes foncières agricoles, là, est-ce qu'on tombe dans les points?
On tombe dans les raisins, là. On tombe dans les déceptions. Le gouvernement a décidé de compenser pour les années 2017-2018. Il y avait des sommes qui étaient dues par les producteurs et on va compenser en partie ces sommes-là qui étaient dues par les producteurs. On parle de 20 millions de dollars pour 2017-2018, mais on n'a rien réglé pour les années suivantes. Et s'il n'y a rien qui est fait pour déplafonner le programme de remboursement de taxes, parce que présentement, il y a un plafond qui fait que le niveau de soutien est réduit d'une année à l'autre, c'est 300 millions de dollars qu'on va aller chercher dans les poches des agriculteurs en hausse de taxes au cours des 5 prochaines années. Donc, d'un côté, on investit 350 millions de dollars, mais de l'autre côté, on va aller chercher dans les poches des agriculteurs 300 millions de dollars. Donc, ce qu'on donne d'un côté, on va le chercher de l'autre côté. Donc, si on veut vraiment avoir que la politique bioalimentaire donne des résultats, bon, on doit vraiment régler la problématique des taxes foncières agricoles.
Ça, c'est le scénario catastrophe, là, le 300 millions, si ça ne se règle pas.
Si ça ne se règle pas, mais c'est toujours pas réglé. On dit qu'il y a un comité de travail, que le comité va poursuivre ses travaux, mais on sait que les élections, c'est pour l'automne, et ça serait surprenant qu'on puisse régler le dossier avant les élections. Donc, ça reste en suspens, et c'est ce qui peut, à terme, venir vraiment mieux nuiser les effets positifs de la politique qui va être annoncée dans les prochaines semaines.
D'autres points plus ou moins négatifs?
Il n'y a rien pour compenser les entreprises agricoles suite à la hausse du salaire minimum et des hausses à venir. Le secteur horticole, le secteur végétal s'attendait vraiment à des mesures de compensation, des mesures de soutien. Il y a quelques mesures fiscales qui vont venir en support aux entreprises agricoles, mais pour ces entreprises-là, il n'y a pas de compensation là, significative là, pour venir compenser la hausse du salaire minimum. Et ça, c'était une demande importante du secteur agricole.
Il y a quand même une politique de la main-d'œuvre qui pourrait être bientôt énoncée. Peut-être qu'il y aura des mesures dans cette politique.
C'est sûr qu'il va y avoir des mesures dans cette politique-là qui vont venir en support, mais jamais pour la hausse de coûts que ça représente, la hausse du salaire minimum pour les entreprises, particulièrement du secteur horticole, les producteurs de fraises, de framboises. C'est sûr qu'il y a des mesures qui vont être intéressantes dans la politique de main-d'œuvre, mais jamais à la hauteur des coûts que ces entreprises-là devront assumer avec la hausse du salaire minimum.
Donc, on a fait le mi-figue, mi-raisin. Là.
Exactement.
Monsieur Ross, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Ici Lionel Levac. Je poursuivrai demain avec d'autres commentaires sur le budget du Québec. Au revoir.